Hoston andra dei andros hosdein euthus. Il faut que ça sente le vrai mal. Citation d'Aristophane, Aristophanis, dans la pièce Lysistrata. Une pièce dans laquelle les femmes font la grève du sexe afin d'arrêter une guerre imminente. Ici, un vieillard ordonne à de jeunes hommes de retirer leurs vêtements pour paraître plus virils. Bonjour et bienvenue sur Skurokos. Aujourd'hui, émission inédite sur ces questions du genre, de la sexualité et de la virilité qui questionnaient déjà Aristophane et tous ses joyeux compères. On entend régulièrement parler de la communauté LGBT qu'on associe souvent à un phénomène très récent car on va rarement trouver un retraité dans une gay pride, donc principalement la représenter remplie de jeunes. Pourtant, les questionnements sur les genres et la sexualité soulevés par ce mouvement ne datent pas d'hier et ont toujours existé. On va justement voir que les choses comme l'homosexualité, la question de la virilité ou le travestissement existent déjà depuis l'Antiquité. Ces thèmes vont nous être présentés par nos différents chroniqueurs, Charline, Julien, donc moi, Olga et Paul. Commençons sans attendre avec Charline. La première fois que vous l'avez entendue, c'était sur Skurokos.
Merci Julien. Bonjour. On pense souvent que l'homosexualité n'est acceptée que depuis assez récemment et qu'elle a toujours été interdite jusqu'ici, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dans la Grèce antique, par exemple, même si on n'accepte pas le mariage gay, la pédérastie est encouragée. La pédérastie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça désigne les relations sexuelles qu'ont l'adulte et le jeune homme lors de sa formation, juste avant son passage à l'âge adulte. L'éraste, ou l'homme adulte, va donc prendre sous son aile un jeune homme, qu'on appelle éromène, et le former aussi bien sur le plan intellectuel que manuel. Ces couples d'éraste et d'éromène étaient très bien perçus à l'époque, puisque pour les Grecs, cette relation créait une émulation entre les deux hommes. C'est grâce à cette émulation que l'on retrouve de nombreux mythes où ces couples sont applaudis pour avoir fait chuter des tyrans, comme Chariton et Mélanippe par exemple. Pour les Grecs, ce serait le désir de ne pas paraître faible devant leur amant qui leur aurait permis de ne pas céder face à la torture que leur a infligée le tyran Phalaris. Évidemment, tout n'était pas rose non plus, puisque les relations entre femmes n'étaient pas acceptées, la Grèce antique reste tout de même une société très misogyne. Même pour les hommes, c'était compliqué, puisqu'ils étaient quand même obligés de se marier avec une femme pour avoir des enfants. Malheureusement, ces relations ne pouvaient pas être officielles.
Merci Charline. Alors maintenant, on va continuer à parler des hommes, mais sur le thème de la virilité, et c'est moi qui vais vous en parler. Alors, je vais vous parler donc, pour aussi introduire la chronique suivante qui va porter sur le travestissement, voilà, petit spoil, sur les questions de la virilité masculine de l'Antiquité à nos jours dans la littérature et le cinéma. Je vais utiliser notamment des personnages comme Rambo, dans Rambo, et d'Achille dans l'Iliade. Laissez-moi vous les introduire brièvement. John Rambo, c'est un Américain engagé au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. C'est un personnage fort physiquement, on le voit sa musculature développée. Il est aussi assez bestial, c'est-à-dire comparable à un animal sauvage, genre un ours, un loup, une panthère, un lion, un cougar, ou bien une choucroute vegan. C'est faux, c'était pour voir si vous suiviez. Ce côté sauvage est observable grâce aux cris poussés par Rambo au cours du film quand il se bat. Comme dans la fameuse scène où il détruit tout dans une pièce avec son fusil mitrailleur. Vous savez, c'est la scène où il tient sa mitrailleuse à une main là. Dans sa mentalité, maintenant, c'est un guerrier endurci qui n'a pas peur de la mort, il a conscience de ses capacités au combat, et il est le premier à être volontaire pour aller se castagner, comme on dit. Achille, ou Achilleus en grec, voilà, c'est ce cadeau, est un guerrier grec, qui le crut, qui prit part à la guerre de Troie, du côté des Grecs contre les Troyens, les habitants de Troie, qui le crut. Dans l'Iliade, Achille est considéré comme le meilleur des guerriers de toute la Grèce. Ce qui n'est pas nécessairement faux, mais Achille a une petite technique pour arriver à être si fort, si courageux et si efficace. Bon, normalement, j'ai pas le droit de le dire, mais bon, je l'ai eu au téléphone et bon, il m'a dit que je pouvais. En fait, il est invincible, donc forcément, ça aide. Mais comme c'est un guerrier, donc ça nécessite de porter une armure, une épée, un grand bouclier, comme ils savaient le faire les Grecs, et une lance, bah ça demande d'être un minimum fort quand même. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Dans plusieurs épisodes de l'Iliade, on le voit se battre férocement à la manière d'un lion terrassant ses ennemis. Vous l'aurez compris, ce sont des personnages ayant plutôt les mêmes traits, genre la force, le bellicisme, le courage. Ce sont des traits qui sont associés à la virilité, car aux antipodes de traits associés aux femmes. Par exemple, la discrétion, la ruse, de type sournoise, ou la finesse. Maintenant, utilisons l'exemple des jeux vidéo pour élargir un petit peu mon champ. Considérons deux personnages, un étant un combattant au corps à corps affrontant frontalement ses ennemis, et l'autre devant se montrer furtif et discret, ce qui est un pléonasme. on se figurera le premier probablement comme un gros guerrier bien large en armure lourde avec une grosse hache bien lourde ou un gros flingue. Comme par exemple le Doomslayer de Doom, Marcus Fenix de Gears of War ou le protagoniste de Dark Souls dans Dark Souls. L'autre personnage sera un personnage en tenue légère, au sens de tenue silencieuse permettant la mobilité, hein, bande de mal appris. Il aura sûrement des petites armes dissimulables, genre une dague, un pistolet, ou bien sera un mage, ou un sorcier. Mais ce personnage sera sûrement une femme. On peut penser à Serana dans Skyrim, qui est une femme qui a une armure légère, une dague, et qui est même capable de magie. On peut aussi penser à Rousseau dans Call of Duty World War II, qui est une résistante française pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se déguise en soldat allemand pour infiltrer les locaux de la police à Paris et en éliminer le chef. Enfin, on peut penser au Spadassin dans For Honor, qui est un personnage dépeint comme un chevalier furtif. Oui, enfin, c'est un type, enfin, du coup, une bonne femme, en armure complète, avec des compétences de furtivité. Pourquoi pas? Mais c'est une femme. Et ça peut faire un peu sens, parce qu'un Spadassin, à la base, c'est un assassin à gages, donc c'est le terme un peu médiéval de tueur à gages, en fait. Donc ça passe, hein, voilà. Pour compléter, j'ai posé quelques questions sur ce thème à des gens du lycée, des élèves et des professeurs, et voici leurs réponses.
Quels sont, pour vous, les critères de la virilité?
Alors, immédiatement, c'est vrai que virilité, on pense barbe, on pense voix grave, on pense force, on pense courage moralement, abnégation, adversité.
Des critères traditionnels de la virilité, qui sont bien sûr la force physique, la puissance sexuelle, force physique et puis force morale également.
Bah, en fait, j'ai un peu deux visions d'un personnage viril contemporain. Déjà, celui qui se prend pour quelqu'un de viril, genre un gros macho dans son canapé avec une bière. Bah, après, je vois quelqu'un, tu sais, les mecs à la salle, genre qui font, je sais pas, des tractions, mais genre qui poussent des cris.
Bah, du charisme, forcément. Quelqu'un qui sait parler, qui ait un bon comportement dans la société, quelqu'un qui s'habille bien.
Pour moi, quelqu'un de viril, c'est quelqu'un de macho un peu. Et du coup, c'est pas forcément positif.
Cette notion de virilité me semble pas forcément attachée à l'homme, mais peut se retrouver aussi chez une femme. La force physique, on peut la retrouver chez une femme, par exemple. Et les qualités d'empathie, de douceur, d'émotion, on peut aussi les retrouver chez un homme.
Quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui a sa propre personnalité, ça a beaucoup de charisme, quelqu'un qui a beaucoup de personnalité.
Être viril, c'est s'écouter, c'est être en accord avec qui on est profondément. Ça, c'est la virilité.
Et d'après vous, qu'est-ce qui caractériserait un personnage viril antique?
Vous parlez de personnage antique viril, je pense, à Spartacus. Il était, un homme très viril. L'homme viril antique, on regarde des représentations que nous en avons aujourd'hui. Les muscles, les faibles, le belâtre, bien fait de sa personne, ça, c'était un homme viril. Et qui a osé prendre l'épée et taper sur tout le monde.
Moi, je vois quelqu'un de musclé un peu.
Ouais, moi aussi. Apollon,
ouais.
Ok.
Ulysse.
Alors, celui qui me semble incarner totalement les critères traditionnels, c'est Hercule, Achille, puisqu'on a là l'association de toutes les caractéristiques, force virile, courage, qualité morale.
Bah, par exemple, fallait qu'il soit musclé pour un homme. La femme, je sais pas trop, mais par exemple, un homme, fallait qu'il sache combattre, qu'il ait des muscles, etc. Donc forcément, après, aujourd'hui, ça a évolué, mais je pense qu'à l'époque, on peut pas dire qu'un personnage soit aussi viril à l'époque que maintenant.
Alors, moi, j'ai envie de... Ce qui me vient, là, spontanément, c'est de vous parler de femme virile. C'est quand finalement ce mot, on peut l'appliquer à la femme, bien entendu. Et donc, femme virile, ça voudrait dire quoi? Une femme dotée de force morale, alors de poils, pourquoi pas, d'une voix grave, pourquoi pas, mais c'est là qu'on sent que ces critères-là, finalement, sautent, au fond. Et que ce qui va importer, c'est la force morale, l'adversité. Qu'est-ce qui me vient là? Je cherche. Antigone, bien sûr. Elle est toute petite, elle est pas forte, et pourtant, on va dire physiquement, et pourtant, elle fait ce qu'il ne faut pas faire, elle brise l'interdit. Donc il ne s'agit pas d'être un gros mec fort et viril comme on l'attendrait. On peut aussi s'appeler Antigone, avoir 15 ans, être toute chétive, et finalement s'ériger contre la plus grande des autorités.
Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous citer des personnages virils, donc enfin que vous considérez virils, de la littérature ou du cinéma, donc ça peut être moderne ou pas.
Pour moi, Aldo, qui est le héros du Rivage des Sirtes de Julien Gracq, est un personnage très viril. Alors que il n'a rien de viril quand on comme ça sur le papier.
Moi, ça m'a toujours marqué. Il y a un roman d'Albert Cohen qui s'appelle Belle du Seigneur. Le héros s'appelle Solal, donc c'est l'être lumineux par excellence, qui pour moi incarne absolument la virilité. Parce qu'il en a absolument, il a une espèce de puissance charismatique. Il n'y a pas de puissance forcément physique, mais il a une espèce de courage absolu. Il a aussi beaucoup d'habileté. Et puis il a aussi une espèce de pouvoir de séduction, pouvoir de séduction très fort.
Disons que là, ce qui me vient, c'est le héros romantique. Là, j'ai une pensée pour Lorenzaccio. Lorenzaccio, le personnage de Musset dans le théâtre, hein, au théâtre. On le dit fragile, on le dit faible. Il est un peu moqué, Lorenzetta qu'on l'appelle, Renzino, Renzo, enfin on le moque, on dit qu'il s'est évanoui devant la vue d'une épée, enfin. Mon œil, puisque c'est lui qui prépare, sous ses dehors de grand timide, qui prépare l'assassinat de son cousin, le duc Alexandre, pour libérer la ville de Florence de l'affreux monstre. Donc vous voyez comment la virilité un peu remise en cause comme ça peut cacher aussi une très grande force.
Par exemple, un personnage que tout le monde connaît, je pense, Squeezie. Je pense qu'il a du charisme, de la virilité, parce que il sait s'exprimer. Dans ses vidéos, il s'exprime, il fait un peu de blagues, etc. Mais quand tu le vois dans les making-of, par exemple, de ses vidéos, il est très sérieux et ça se voit qu'il sait gérer.
Professionnel.
Voilà, très professionnel.
Ah, dans le cinéma, qu'est-ce que je pourrais trouver comme... C'est vrai que le cinéma actuel, soit on a effectivement George Clooney qui semble quand même incarner une espèce de tradition de la virilité, quoi. Hein, parce qu'il a à la fois les qualités physiques, de séduction, l'humour, la distance, voilà, toutes ces qualités-là. On dirait les héros type James Bond, hein, c'est vraiment incarnation... de la virilité traditionnelle, sans faille d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de faille chez James Bond.
En conclusion, les critères physiques de la virilité masculine sont assez ancrés dans notre culture. On les retrouve cités dans les différentes interviews. La force, la guerre, on retrouve tout ça si vous voulez. Un point de vue moral maintenant, on retrouve un profil d'une personne sûre d'elle, droite, qui n'a pas peur des autres, peur de parler, peur d'exprimer ou de dire non. Ces traits moraux font de l'homme viril une personne intéressante qu'on veut écouter et qui inspire un peu le respect. Bon, j'en ai terminé, merci à vous de m'avoir écouté, et maintenant je laisse le micro à Paul et Olga.
Se travestir, est-ce une mode ou une culture ancestrale? Qu'est-ce que c'est se travestir finalement?
C'est une action de transformer, d'altérer la nature de quelque chose, ou un acte consistant à porter les vêtements, accessoires, qui sont associés au genre opposé.
Et donc pourquoi on se travestit?
On peut se travestir par nécessité, comme faire une guerre ou ne pas la faire. Mulan s'est travesti pour aller faire une guerre, et Achille a été travesti pour éviter d'aller au combat. On a par exemple Samuel Blalock, un soldat travesti de la guerre de sécession aux États-Unis. Elle s'appelait en réalité Malinda Blalock, elle était mariée avec Case, et avait décidé de se travestir et de devenir Samuel, dit Samy, pour le rejoindre.
Donc c'est seulement par nécessité guerrière, c'est que pour le combat qu'on se travestit?
Non, ça peut aussi être afin de se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Il y a eu le médecin James Barry, qui était en vérité une femme, Margaret Anne Buckley, et surtout une médecin brillante qui a sauvé beaucoup de personnes, civiles et militaires. En parlant de médecin, il y a d'ailleurs dans la pièce Le malade imaginaire de Molière, Toinette la servante se fait passer pour un médecin. Son travestissement permet de ridiculiser et d'humilier les médecins.
Vous avez appétit à ce que vous mangez ?
Oui, monsieur.
Le poumon ? Vous aimez avoir un peu de vin ?
Oui, monsieur.
Le poumon ? Il vous prend un petit sommeil après le repas ? Vous êtes bien aise de dormir ?
Oui, monsieur.
Le poumon ! Le poumon, vous dis-je !
D'autant plus qu'au XIXe siècle, des femmes se sont faites passer pour des hommes ou ont porté des noms masculins pour faire entendre leur voix. Amantine Dupin s'est faite connaître sous le nom de George Sand pour être entendue. Il est certain, ou du moins fortement envisageable, que des femmes qui aujourd'hui ne se sentent pas en sécurité dans l'espace public se déguisent plus ou moins fortement en hommes pour ne pas avoir de problème ou subir du harcèlement sexuel, notamment dans les transports en commun en heure de pointe.
Une autre raison pour laquelle on se travestit, ça peut être le divertissement. D'abord, le déguisement en lui-même est un genre à part entière, c'est-à-dire qu'au théâtre, des pauvres se déguisent en nobles, des valets en médecins et des jeunes en vieux. On ne s'étonnera donc pas de voir des femmes singer les hommes et des hommes se prendre pour des femmes. Il faut d'ailleurs savoir que pendant une longue période, tous les rôles féminins étaient interprétés par des hommes, car les femmes n'avaient pas le droit de faire du théâtre.
Donc le travestissement n'existe-t-il que pour la caricature et l'imitation ?
Eh ben non, justement, le travestissement il peut être apprécié simplement, sans arrière-pensée moqueuse, uniquement pour la beauté ou la créativité de cet art, car je pense qu'on peut parler d'art. Et cela existe depuis toujours, ou presque. On peut penser à Euripide au 5e siècle avant notre ère, qui met en scène dans une de ses pièces le personnage de Panthée, un homme qui se déguise en une femme superbe, flamboyante et presque divine. Cette façon majestueuse de se travestir fait penser tout de suite au monde des drag queens et des drag kings qui existent aujourd'hui, et dans lequel des êtres singuliers se développent et s'épanouissent, à la fois dans l'apparat, le maquillage, mais aussi dans des performances artistiques, la danse, le chant, le jeu théâtral. Finalement, ce changement d'apparence, en nous autorisant à jouer un rôle, en nous autorisant la fiction, et en permettant de devenir quelqu'un d'autre, permet finalement de devenir soi-même, devenir réellement soi-même, ou en tout cas de découvrir une autre version de soi. On peut ici penser à la transidentité, c'est-à-dire que par exemple les personnes transgenres passent souvent par le travestissement pour s'explorer et pour entamer cette transition. On parle depuis tout à l'heure de travestissement, mais en faisant mes recherches, j'en suis arrivée à certaines questions. Est-ce que le mot travestissement a encore un sens aujourd'hui, à l'heure des nombreux questionnements et des nombreuses avancées au sujet des genres, de leur fusion, de leur confusion, voire même de leur disparition, dont on a pu entendre parler récemment avec la polémique qui a créé l'entrée du pronom neutre « yel » dans le dictionnaire. Cette notion est-elle encore pertinente ? Comment imiter le genre opposé au sien si on ne s'identifie à aucun des deux ?
Merci à vous deux. Donc nous avons vu que toutes ces thématiques n'étaient donc pas des phénomènes de mode, ce qui est assez péjoratif, mais plutôt des questions humaines que l'on se pose depuis toujours. On en entend plus parler aujourd'hui avec le développement des médias, qui offrent plus de visibilité à ces sujets, ma foi, complexes, qui n'ont pas fini de nous interroger. Merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oh là là, que de suspense, c'est insoutenable, je vais faire une syncope, voire même deux.
Oui bon, on a compris. À bientôt sur Skyrocos.
Salut et à tous.